Bonjour. À vrai dire, ce que le pasteur a apporté tout à l'heure était totalement de Dieu, on vous l'a déjà dit. On ne se parle pas du sujet que l'on va partager. Et elle a parlé de l'âme ce matin, elle a parlé du fait que la joie était là, elle a parlé du fait qu'elle était là, mais souvent l'âme ne voulait pas coopérer. Et c'est un peu de ça dont on va parler ce matin. Ok. Qui est prêt pour la parole? Amen. Vous savez, si on décide de faire un sondage et qu'on se mette dans la rue et que l'on demande, dise aux gens, écoutez, je vais vous donner des mots et vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Et ces mots sont victoire, confiance, nouvelles idées, joie, liberté, force, enthousiasme. Si on posait la question aux gens, qu'est-ce que ça vous fait penser? À quoi? À quelle organisation ça vous fait penser? Qu'est-ce que les gens diraient? Peut-être qu'ils en diraient, ah moi ça fait penser au Resto du Cœur, ils ont l'air d'avoir la pêche, ils sont tout à fait enthousiastes, ils ont de nouvelles idées par leur spectacle. Non, il y a un autre qui dirait, moi ça me fait penser à la réinsertion des gens. Il y a peut-être un autre qui dirait, non moi ça me fait penser à mon club de je ne sais quoi. Et peut-être que c'est vrai, mais à vrai dire, je doute que toutes ces idées, tous ces mots correspondent à une seule organisation qui soit sur la Terre. Le plus triste de l'histoire, c'est que quasiment personne, en entendant ces mots, penserait à quelque chose. Ou à quoi? Eh bien, à l'Église de Christ. Si les gens, on leur dit victoire, confiance, nouvelles idées, joie, liberté, enthousiasme, force, hardiesse, ténacité. Si on leur disait ça, je vous garantis, ils ne penseraient pas à l'Église. Et ça, c'est extrêmement triste. Ça, c'est extrêmement triste que les gens qui sont dans le monde n'ont aucune idée que c'est la description de l'Église de Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, à vrai dire, ça devrait être ce que l'Église représente sur la terre, parce que c'est ce que Christ a représenté sur la terre lorsqu'il est venu. Ah, tu dis, ah bon? Oui, Christ n'a-t-il pas montré la victoire sur la maladie? La victoire sur le manque de pardon? La victoire dans tous les domaines sur la pauvreté? N'a-t-il pas parlé de principes qui n'avaient jamais été entendus pour que les gens aient la victoire? Oui, Christ a parlé de ça. Christ n'a-t-il pas démontré la confiance qui s'appelle aussi foi? Absolument. Christ n'a-t-il pas parlé de nouvelles idées? N'a-t-il pas montré à son monde des nouvelles idées? Absolument. Il a montré des nouvelles idées quant à la femme. Il a montré des nouvelles idées quant à l'approche de Dieu. Il a montré des nouvelles idées quant à la prospérité. Il a montré des tas de nouvelles idées qui n'avaient jamais été parlées sur cette terre, qui n'avaient jamais été démontrées dans la société. Christ n'a-t-il pas montré la joie? En dépit, comme disait le pasteur, en dépit des circonstances. Christ n'a-t-il pas montré la liberté? Absolument. Christ est venu pour montrer à la société dans laquelle il vivait qu'on pouvait être libre. Libre des préjugés raciaux, libre des préjugés religieux, libre des circonstances. Christ n'a-t-il pas montré de l'enthousiasme? Absolument. Pourquoi? Tu dis, ah bon, il était enthousiaste, ou est-ce qu'on a vu que Christ était, comment tu sais que Dieu, Christ était enthousiaste? N'est-il pas dit, le zèle de ta maison me brûle? Vous savez, le mot enthousiaste, le mot zèle est un mot religieux pour le mot enthousiaste. Souvent d'ailleurs, quand les chrétiens disent, le zèle, mais à vrai dire, c'est de l'enthousiasme. Mais voyez-vous, si le corps a perdu en démonstration ce que la tête a démontré, alors ça me dit que vraiment quelque chose a été perdu. C'est exactement comme si vous avez un vêtement, et votre vêtement a été lavé, et vous le regardez, style 3 mois après, et vous dites, waouh, il n'est plus aussi joli, hein. Bah, il n'a plus la même tenue, il n'a plus la même élégance quand je le mets, il est juste un peu mou, mou de la fibre. Vous savez, ça me dit quoi? Ça me dit que quelque chose de ce vêtement a été perdu. Peut-être que c'est la couleur, peut-être c'est dans la fibre, mais il y a quelque chose qui était là au départ et qui a été perdu. Et Ça, ça n'arrive pas comme ça. Il y a une cause pour laquelle, une raison pour laquelle ce vêtement a perdu ce qu'il était. La Bible nous dit en Osée 4:6, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Osée 4:6, et tout le monde connaît, je suis sûre, si vous avez un petit peu d'âge en Christ, vous connaissez ce passage. Mon peuple est détruit, il y en a une autre version qui dit périt, car il lui manque la connaissance. Mes amis, si l'Église de Christ aujourd'hui ne démontre pas ce que la tête a démontré. La Bible ne dit pas, Jésus n'a-t-il pas dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi ? Des œuvres, c'est de la démonstration. Si l'Église de Christ, aujourd'hui, ne démontre pas ce que Christ a démontré, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que quelque part, il y a une certaine connaissance qui a été perdue. Alors, que croit-elle et qu'a-t-elle oublié ? Ben, il y a trois domaines dans lesquels l'Église a pu perdre quelque chose. Il y a trois domaines dans lesquels l'Église croit en certaines choses et dans lesquels elle a perdu certaines choses. La première, c'est que croit-elle à propos de son Seigneur ? Est-ce que l'Église de Christ croit concernant son Seigneur que le Seigneur est un Seigneur souffrant, humilié, faible, sur la croix ? A-t-elle cette connaissance-là ? Oui, certainement. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle l'a oublié ? Que son Seigneur, c'est celui qui est vainqueur. Son Seigneur, c'est celui qui a le pain de vie. Son Seigneur, à vrai dire, c'est celui qui a la vie. Son Seigneur, c'est celui qui a repris les clés des ténèbres. Son Seigneur, c'est celui qui règne. Un deuxième domaine où l'Église a probablement oublié à cause du manque de connaissance, c'est qui es-tu ? Qui es-tu, toi, en tant que chrétien ? L'Église, en général, a la connaissance que le chrétien, oh, ce pauvre pécheur, oh, cet indigne, qui est soumis à la volonté de Dieu. Ce chrétien, c'est celui qui ne peut pas savoir, ne peut pas connaître les voies impénétrables du Seigneur. Mais a-t-elle oublié que ce chrétien, vous êtes avec moi ou vous regardez le pigeon là ? A-t-elle oublié que ce chrétien est aussi la justice ? Ce chrétien est le sel. Non mais vous imaginez ? Le sel de la terre. Que un chrétien, c'est la lumière. Que un chrétien, c'est une nouvelle race. A-t-elle oublié qu'il fallait qu'elle démontre ça ? Et troisième domaine dans lequel l'Église peut avoir oublié certaines choses, et l'Église croit à certaines choses, concernant notre ennemi, le diable. Le diable, la majorité des gens, et alors, que les gens croient ça dans le monde, il n'y a pas de souci, mais que les chrétiens croient ça, ça pose un problème. Beaucoup de gens se disent, ah oui, le diable, c'est le gros méchant, presque avec des cornes et une queue fourchue. Et le diable, c'est ce qu'on fait croire aux enfants pour les tenir sages. Et il y a presque cette légende à propos du diable, ou alors il y a cette peur qu'on a du diable. Mais l'Église a-t-elle oublié qu'il est vaincu ? L'Église a-t-elle oublié qu'il est subtil ? Parce que l'Église doit se connaître qu'il est subtil. Elle ne doit pas en avoir peur, mais elle doit connaître son ennemi. L'Église a-t-elle oublié qu'elle a autorité sur lui ? Et les chrétiens, l'Église de Christ a besoin de retrouver ses connaissances. Parce que sans savoir connaître ces trois domaines, il est juste impossible de démontrer qui est Christ. Il y a une bonne nouvelle. C'est que partout dans le monde, dans la génération où on est, je vois que la connaissance est en train de grandir. Ce qui me dit que quoi ? C'est que le Seigneur est en train de restaurer son corps. Le Seigneur est en train de ramener à l'endroit où il doit être son corps, avec la connaissance de qui est son Seigneur, de qui je suis et de qui est celui qui est en face de moi. Et alors que la connaissance revient dans le corps, je vous garantis, les œuvres que l'Église va faire va être totalement différente, vont être totalement différentes. Mais je voudrais ce matin revenir sur le troisième point. Revenons sur ce que l'on sait du diable. Et pas avec peur et tremblement, mais avec la position qu'on a vis-à-vis de lui. Beaucoup de chrétiens, quand ils disent diable, diable, il ne faut pas dire trop vite et trop haut son nom, parce qu'on ne sait pas trop. Je vais vous dire, le diable, on a tout ce qu'il faut pour le regarder en face et pour lui commander ce qui doit être à sa place. Une des manières, vous savez, de connaître son ennemi, c'est de connaître son nom. Le nom de notre ennemi va nous décrire qui il est. Parce que voyez-vous, le nom que le diable a reçu n'est pas un nom qu'il s'est donné lui-même. La Bible ne dit pas « le diable se nomma ». Non, quand la Bible parle du diable, de notre ennemi, le serpent, elle le décrit, le serpent, Satan, le diable, c'est Dieu qui a donné son nom. Et quand Dieu donne un nom, je vais vous dire, ce n'est pas pour que ça fasse joli avec le nom de famille. Vous savez, quand on a un bébé, quand les couples ont un bébé, alors on l'appelle Martin, Monsieur Martin, et c'est une fille, on l'appelle Martine, Martine Martin. Oh non, ce n'est pas très joli ça. Donc, Allah, Elisabeth Martin, ouais, c'est pas mal, c'est un peu long. Qu'est-ce qu'on va mettre? Chloé Martin, tiens, ça c'est joli. Les gens choisissent le prénom d'un bébé, ce qui est un tort, en fonction de combien c'est mignon. Dans les Écritures et avec la pensée de Dieu, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Quand Dieu donne un nom, et c'est ainsi que ça devrait se passer dans les familles chrétiennes, on va choisir un nom qui va révéler, et on a l'Esprit de Dieu, on peut choisir, on devrait choisir le nom d'un enfant par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu donne un nom, ce nom va révéler la personne elle-même, ou alors ce que le rôle de cette personne, le rôle que va avoir cette personne dans sa génération. Ce n'est pas l'histoire de faire mignon. Non, on voit Abraham. Abraham, qui voulait dire père exalté, est passé de ce nom-là à Abraham, père d'une multitude, père des nations. Jésus a reçu un nom qui voulait dire le Seigneur sauve. Simon est passé de Simon à Pierre, qui voulait dire une petite pierre. Pourquoi? Parce que Pierre allait devenir une pierre, la révélation qu'il avait reçue, allait permettre que Dieu construirait avec lui son Église. Dieu construit avec. Et Satan, notre ennemi, le serpent, lui, sous l'Ancien Testament, s'appelait Satan. Qui veut dire quoi? Qui veut dire accusateur et adversaire. Et on voit qu'à partir du Nouveau Testament, donc le grec, notre ennemi n'est plus, alors on le nomme toujours Satan, mais il a un autre nom qui sort à ce moment, c'est le diable. À partir du Nouveau Testament, en grec, notre ennemi va s'appeler le diable. Et c'est intéressant parce que Satan, qui veut dire accusateur et adversaire, est un nom qui définissait qu'est-ce qu'il était. On va voir ensemble ce que veut dire le nom diable. Et c'est intéressant parce que ce nom a plus à voir à la façon de procéder, à ce qu'il va faire dans les générations. A plus à voir avec ce qu'il fait. Alors, vous êtes prêts pour étudier ce nom? Alors, quel est ce nom? Ce nom, à vrai dire, pour étudier ce nom, il y a quelqu'un qui a trouvé un vieux manuel grec qui avait été écrit par un érudit russe. Et cet homme russe a pris toutes les connaissances des grands érudits en grec et a fait une synthèse de tout ce que chaque érudit avait émis concernant différents mots grecs. Et il en a fait une combinaison. Et il a écrit ce livre. Et l'homme qui l'a trouvé est un russe. Et il disait que ce livre-là n'existe plus. C'est un livre qui n'est plus publié. Et c'est un livre qui n'a été publié qu'en russe. Donc c'est vraiment quelque chose de précieux, un moyen vraiment excellent qui a été mis à la disposition du corps. Le mot diable en grec, ça se dit diabolos. Et ce mot-là est une combinaison de deux mots. C'est un peu comme si vous avez ce mot bloc-note. On voit qu'il y a bloc et on voit qu'il y a note. Et ça fait, en mettant les deux, c'est devenu un et un seul, bloc-note. On voit la chasse d'eau. Il y a le verbe chasser et il y a l'eau. Les deux ensemble ont amené un nouveau mot. Eh bien, c'est la même chose avec le nom de diable, qui se dit diabolos. La première partie de ce nom, c'est dia. Dia veut dire à travers, par, au moyen. Et suivant ces trois possibilités, au moins trois, c'est utilisé suivant le contexte dans lequel le dia est associé. La deuxième partie, c'est bolos, qui vient du mot bolet. Bolet veut dire lancer, veut dire jeter, et suivant l'endroit où il est utilisé, lancer. Alors, ce qui était intéressant, c'est ce que a précisé ce livre, que d'autres livres n'avaient pas, parce que ce n'est pas nouveau, hein, cette définition a déjà été donnée. Mais ce que ce livre a souligné, c'est que c'était un mot qui était utilisé particulièrement en grec pour décrire une façon, un processus de pêche qui consistait à jeter des filets, tout genre de filets. Mais ça, c'est la première fois que, quand j'ai étudié ça, je l'ai entendu. C'est-à-dire, ce mot grec, quand il est dit « bolos », ça évoque une pêche, ça évoque quelqu'un qui jette un filet. Intéressant, non? C'est intéressant que notre ennemi soit appelé ainsi. Et les filets, vous savez, les filets ont cette caractéristique, c'est que quand ils sont jetés en mer, ils sont invisibles, pour le poisson. Hein. Et le poisson ne va réaliser qu'une fois attrapé qu'il a été attrapé. Venez, hein. Mais c'est un fait. Deuxième chose, c'est que une fois que le poisson est pris, bien pris, je veux dire, une fois que la poche pêche, le poisson, le filet a été sorti, eh bien, le poisson a besoin de l'aide de quelqu'un pour sortir. Il ne peut pas, il n'a pas la faculté de sortir de lui-même, de ce filet. Alors, à l'époque, le filet le plus utilisé était un filet rond. Et alors, j'ai fait des recherches et je me suis aperçue que ce filet, il me semble, est encore utilisé et il s'appelle épervier. C'est un filet qui est rond, et il a des raisons pour lesquelles il est utilisé. Premièrement, il ne peut être lancé que si le poisson est en surface. C'est-à-dire, pour qu'il soit efficient, efficace, il va falloir que le poisson soit au ras de l'eau. Deuxième chose qui le caractérise, c'est que c'est un filet qui tout autour a des plombs. Tout autour, il y a des petits plombs qui sont accrochés au filet. Et à vrai dire, vous savez, ce n'est pas le filet lui-même qui est une menace. Parce que si on mettait le filet sur la mer, quand il est jeté, s'il est jeté sans les plombs, il ne s'enfonce pas. Qu'est-ce qui va faire que le filet soit si efficace? C'est parce qu'il va être plombé. Et dès qu'il y a des plombs, automatiquement, le filet s'enfonce. Et une fois que le filet est bien enfoncé, je vais vous dire, c'est très simple. Il faut simplement, il y a une corde, il faut simplement que le pêcheur tire sur la corde et le filet remonte plein de poissons. Je vous rappelle, on parle de quoi? On parle de diabolos. On parle de notre ennemi. Et on parle de l'essence même de son nom qui décrit ce qu'il est ou ce qu'il va faire. Ouhou, vous êtes avec moi? Alors je me suis dit, ça va être intéressant. Oh, ça va être intéressant parce qu'on va regarder la définition du mot filet. Et filet, je me suis dit, qu'est-ce que le dictionnaire décrit dans filet? Un filet de pêche, tenez-vous bien, est un outil de pêche passif. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas sorti de la Bible, c'est juste le dictionnaire qui le dit. Un filet est un outil de pêche passif permettant de capturer des poissons ou certains crustacés. Il y a parmi vous des crustacés ? Un filet de pêche est un dispositif maillé, un réseau de mailles. Voilà la définition du mot filet. Alors, je me suis dit, avec tout ça, avec la définition du nom, avec ce qu'est, la définition de ce qu'est un filet, on va voir comment le diable opère. Parce qu'il ne faut pas rêver. Tant qu'il n'a pas été, et il va être mis dans le lac de feu, il va continuer à opérer. Et il n'y a pas à craindre, il n'y a pas à trembler. On n'est pas, beaucoup de chrétiens ont l'impression que c'est le diable qui est sur le pied. Non, non, gardons les choses. Il est dessous. Il est dessous. Alors, comment va-t-il opérer? Eh bien, il va opérer avec vous, avec moi, comme il a opéré avec Jésus. Hein. Autant, il peut être rusé, mais il n'a pas inventé quoi que ce soit de nouveau. Hein. Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on va voir que oui, Jésus y a été confronté à sa façon de procéder, mais on va voir comment est-ce que ça s'est passé pour lui. Ok, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour utiliser ce filet, il fallait que le poisson soit en surface. Regardez ici Matthieu 4, 1. Matthieu, si vous comprenez ce qui va être dit, je vais vous dire, excusez-moi l'expression, vous arrêtez de vous faire bananer. Matthieu 4, 1, où il est dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ok, on se dit, voilà, il eut faim. Et d'un seul coup, on voit que le tentateur, s'étant approché, de lui dit. Et on voit, qu'est-ce que c'est? Quand je disais que le filet, on doit avoir un poisson en surface pour que ce filet soit jeté, eh bien là, on a quelque chose qui est en surface. Jésus était dans un endroit où il était vulnérable physiquement, parce qu'il avait jeûné, et la Bible nous dit qu'il avait faim. Il y a des endroits où on est vulnérable pour différentes choses qui se passent, soit à cause de quelque chose de physique, on a faim, on est malade, ça rend quelqu'un vulnérable, ou alors à cause de quelque chose qui se passe dans votre vie ou dans votre âme, vous êtes vulnérable, et à ce moment-là, vous êtes intéressant. À ce moment-là, vous êtes potentiellement le poisson sur lequel on va jeter un filet. On voit que lors peut-être d'une déception, lors d'une fatigue, lors d'une dispute, lors d'une remontrance qu'on a mal gérée, on devient vulnérable. C'est intéressant de voir que Jésus, à ce moment-là, il était vulnérable, il eut faim. Et ben voilà, d'un seul coup qui approche, le tentateur. Et on voit, on va étudier ensemble ce qui s'est passé après, mais ce qui est intéressant de voir, c'est Luc, alors je l'ai pris en Luc, mais Luc 14, 13 qui dit, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au temps favorable. » Autre traduction, « Le diable s'éloigna de lui jusqu'au temps opportun. » Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a été vulnérable, le poisson était en surface, il a essayé de mettre un filet, on va voir si ça a marché ou pas. Et quand il a vu le résultat, il s'est dit, à un autre moment, il va revenir en surface. Il n'y a pas à trembler, hein, parce que c'est une bonne nouvelle, hein, je vais vous dire. On va voir, donc on a vu, le poisson est en surface, le moment est opportun. Et on va voir comment le diable s'y est pris pour jeter un filet. C'est pour ça que je vous dis, on a besoin de savoir comment il marche, parce qu'on est loin de l'image. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en l'existence du diable. Parce que ce diable-là, il a été ridiculisé, c'est un peu comme dans un dessin animé, il ressemble un peu à un personnage de dessin animé. Non, le diable est un être spirituel. Beaucoup de gens, tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Bon, ben, vaut mieux croire dans celui-là, parce qu'il existe. On n'a pas à le craindre, mais il existe. Donc, on voit que quand le moment a été opportun, On va voir comment il a décidé de jeter. Comment ? Est-ce qu'il se présente avec une fourche ? Non, pas du tout. Regardons ensemble. Matthieu 4, 1, on va continuer. 4, 3, à vrai dire. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » À vrai dire, là, le diable est en train de lui dire quelque chose qui tient la route, parce que c'est une... Il cite un verset, donc ce n'est pas quelque chose de farfelu. Et on voit que Jésus lui répondit. Ensuite, verset 5, « Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. » Ça me dit qu'il voulait lui faire voir quelque chose. Et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre se heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, et lui, quoi ? Montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Je ne pense pas qu'il lui dit sur le même ton que moi, hein, mais bon. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Qu'a-t-il fait, le diable ? Qu'essaie-t-il de faire, celui qui est en train d'essayer de pêcher Jésus ? Eh bien, tout simplement, on voit que là, il a jeté un filet. Je vous rappelle ce que c'est. C'est un outil passif. C'est-à-dire que le diable, un filet, un outil passif, mais qui allait permettre de le capturer. Et pourquoi est-ce que c'est un outil passif ? Parce que, voyez-vous, le diable, contrairement à ce que les gens croient, comme je le disais, il ne vient pas avec une fourche, en crachant du feu, avec des petites cornes, et avec du tonnerre. Ça, c'est pour les incroyants, ceux qui ne le connaissent pas. Non, ce qu'on a vu dans son passage, c'est qu'il est venu pour dire et il est venu pour montrer. Alors, a-t-il montré avec ses yeux physiques ? Bah, ça m'étonne que c'était physique. Ça m'étonne qu'il ait transporté sur une montagne parce qu'il est juste impossible de revoir tout, même si c'était le cas, même s'il avait transporté sur une montagne physique, c'est juste impossible, physiquement, de voir tous les royaumes de la terre en même temps. C'est juste pas possible, ce truc. Donc, ça me dit que quoi ? Ça veut dire qu'il lui a montré et lui a parlé dans l'âme. Il a parlé et il a montré à son âme. Peut-être qu'il y a eu, peut-être que ça a été en vision, probablement dans l'esprit, mais quoi qu'il en soit, c'est avec son âme qu'il a entendu et c'est avec son âme qu'il a vu ce que le diable était en train de lui dire et de lui montrer. Et à vrai dire, c'est la même chose qui s'est passée. Le diable parle, le diable a des choses à dire. C'est la même chose qui s'est passée en Matthieu 26, 38, dans le jardin de Gethsémané. Vous vous souvenez ? Jésus est dans une période où il est vulnérable, où il est en surface, parce qu'il sait exactement où il va aller. Il n'est pas victime, il a choisi, il sait où il va. Et il se retrouve à cet endroit, et il est intéressant de voir ce qu'il écrit, Matthieu 26, 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusque la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Là aussi, à cet endroit où il était vulnérable, le diable avait quoi ? Il n'a pas dit « mon esprit est triste jusqu'à la mort ». Il a dit « mon âme », ce qui me dit que le diable avait lancé quelque chose contre son âme. Le diable avait probablement dit beaucoup de choses quant à ce qui allait se passer. Le diable avait probablement montré devant ses yeux la souffrance. Le diable en avait certainement rajouté. Parce que vous savez, le diable ne vous sert pas à la vérité. Le diable sert la vérité entourée de beaucoup de mensonges. Et il lui a certainement dit beaucoup de choses à propos de la croix, montré beaucoup de choses à propos de la croix, montré et dit beaucoup de choses à propos du Père, montré et dit beaucoup de choses à propos de l'issue de la croix. Et son âme était affectée au point d'être triste jusqu'à la mort. Vous savez, pour les chrétiens, le combat spirituel a à voir avec ce que le diable nous dit et nous montre. Et beaucoup de chrétiens passent leur temps à chasser des démons, quand, à vrai dire, on ferait mieux de veiller sur notre âme. À vrai dire, alors, c'est quelque chose que je mets en parenthèse. Oui, il y a une activité démoniaque, il n'y a aucun doute. Mais je n'ai pas vu dans les Écritures, et ça, il faudrait chercher, creuser, voir un petit peu plus, ça serait vraiment intéressant de noter, je n'ai pas vu à aucun moment qu'on chassait un démon d'un chrétien. On peut chasser l'activité spirituelle qui est autour de son âme, mais pas d'un chrétien. Je n'ai pas vu ça. Et au lieu de chasser des démons à tout larigot et dire « Ah, c'est la faute du diable, c'est la faute du diable », non, les chrétiens feraient mieux de veiller à s'attacher, à veiller à leur âme. C'est-à-dire, ils feraient mieux de se poser la question « Qu'est-ce qui est derrière l'émotion que je ressens ? Qu'est-ce qui est derrière le raisonnement que je tiens ? Qu'est-ce qui est derrière la volonté que je mets dans ce que je suis en train de faire. La Bible nous dit en 1 Pierre 5,8, il est dit, « Soyez sobres, veillez. » Il n'est pas dit de veiller sur le diable, il est dit « veillez, point. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. On est clair? Pourquoi? Il ne va pas dévorer celui sur qui il veille. Il ne va pas dévorer celui qui veille, plutôt, dans ce sens-là. Et quand on regarde un petit peu les textes, la Bible a beaucoup à dire concernant le fait de garder son âme, garder ses pensées, renouveler son âme, renouveler ses pensées. À vrai dire, je pense très honnêtement que le diable, et les Écritures semblent confirmer ça, apparaît très peu. Il y a très peu de manifestations physiques du diable. Par contre, je pense qu'il parle beaucoup plus et montre beaucoup plus que ce que l'on croit, si on ne veille pas sur son âme. Vous savez, il y a des années, je me souviens que c'était après que mon père soit parti avec le Seigneur et après qu'un cousin, je ne sais pas s'il était sauvé, mais soit décédé également. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans la cuisine, je vivais chez ma mère, et je me souviens que j'étais dans la cuisine en train de mettre le couvert. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui n'était pas audible, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, et il faut voir que j'avais peur de perdre encore quelqu'un de la famille. Parce que j'en avais perdu deux et ce n'était pas facile à gérer. Et j'avais quand même cette peur que quelque chose arriverait à certains de ma famille. Et j'ai entendu cette voix, j'avais quoi ? J'avais peut-être 16 ans, alors que je mettais le couvert qui m'a dit, je croyais que c'était, je ne sais pas où placer cette voix, mais je l'ai entendue, et qui a dit, si tu mets le couvert avant que quelqu'un ne rentre dans cette pièce, il n'arrivera rien d'autre. Si tu ne mets pas le couvert avant que la porte ne s'ouvre, il y aura encore un malheur dans ta famille. Et à chaque fois que je mettais le couvert, j'avais ce truc, ce challenge qui me revenait. Et je vais vous dire, il y en a beaucoup plus qui sont confrontés à des challenges aussi stupides. Il y a des fois où le diable va vous dire quelque chose d'extrêmement logique, bien carré dans le raisonnement. Et il y a d'autres fois où ça ne tient pas la route, mais je vais vous dire, ça met une pression sur l'âme. Et je me souviens de mettre le couvert et de penser ça. Et j'entendais des bruits dans l'escalier. Je me dis, pourvu que personne ne rentre. C'est ridicule, hein, je vous l'accorde. C'est totalement ridicule. Mais c'était une voix, et cette voix était un filet sur mon âme. Je n'ai pas cédé. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Vous savez, bon, là c'est un exemple que je vous donne, mais qui est gros. Mais je vais vous dire, très souvent, Ce sont des, quand on est dans une situation vulnérable, c'est juste une petite phrase qui est insignifiante. Non, mais t'es pas un peu bête, tu ne qualifies pas pour ça, pour ce que tu as postulé, t'es juste pas à la hauteur. Ou alors, c'est, tu sais quoi? Peut-être qu'elle ne m'aime pas. Peut-être que finalement, c'est foutu. Peut-être qu'elle ne m'aime pas. Peut-être que je ferais bien de partir. Ou peut-être c'est, tu sais quoi? Non, ta foi ne va pas marcher. C'est des petites choses, des petites phrases toutes bêtes, mais qui sont comme un filet envoyé sur notre âme. Parfois, c'est une petite phrase. Parfois, c'est quoi? Parfois, c'est un raisonnement, franchement, qui tient la route. Parfois, on voit que le diable, a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une écriture et ça tenait la route. Il citait parfaitement l'écriture. Il y a des fois, il l'a mise un peu hors contexte, mais quand même, le raisonnement ne tenait la route. Par exemple, pour nous, ça peut être, vous êtes en train de mettre votre foi en action pour partir en Israël. Vous avez mis votre foi en action pour partir. Et vous avez cette petite voix qui vous dit, tu sais quoi, ça n'a pas marché cette histoire. Non. Les autres, ils vont partir, mais pas toi. Non, non, ça ne va pas marcher. Ça, c'est un filet. Et autre chose, on a vu par le passage qu'on vient de lire, ça peut être une image. Pendant des mois, il y a des années, j'ai cru que j'avais un cancer. Je suis restée avec cette image. J'étais persuadée que j'avais un cancer. Je n'étais pas persuadée. J'avais la pensée, à vrai dire, qui venait. Et cette pensée qui venait, j'ai un cancer, pendant des mois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça, à vous tous? J'espère, parce que sinon, vous n'êtes pas humain, je peux vous le dire. Et vous savez, il faut, quand la Bible nous dit que le diable est rusé, ben évidemment, il n'est pas bête, hein, il n'est pas benêt, il n'est pas totalement benêt. C'est-à-dire qu'il va essayer de jeter le filet là où ça va blesser. Il va essayer, si vous avez tendance à vous laisser offenser, devinez quoi? Quand l'occasion de l'offense va venir, et hop là! Si vous avez tendance à la rancune, devinez quoi? Si vous avez tendance à l'infériorité, devinez quoi? Quelqu'un vous regarde de travers et hop là! Ouh, ouh, ouh! Un manque de maîtrise, un problème vis-à-vis de l'argent. Le pasteur reçoit une offrande, c'est complètement de Dieu, c'est scripturaire, c'est peut-être pendant la dîme ou c'est peut-être parce que sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et alors là, il y a une merveilleuse occasion pour que le poisson soit en surface. Et alors le filet était tout trouvé. Si vous avez tendance à contrôler, oh, 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 juste une occasion. Et alors là, va vous le servir. Une peur particulière. Quoi que ce soit, il va chercher, il va viser là où ça blesse. Et il va essayer de jeter ce filet sur ce qui... Il ne peut jeter, à vrai dire, ce filet sur ce qui est déjà sur ce qui est déjà en nous. Regardez avec moi en Jacques 1,14. Il n'a pas intérêt, il n'a aucun intérêt, il n'est pas benêt, complètement benêt. Il sait que pour que le poisson morde, il faut que ce soit un appât qui tienne la route. Non? On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Jacques 1,14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Les désirs appartiennent à quoi? À l'âme. Les désirs, quand ils ne sont pas ceux de Dieu, ils sont connectés uniquement à notre âme. Donc, il n'est pas faux de dire, mais chacun, parce que là, c'est le désir de la chair, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par son âme. Alors, c'est intéressant parce que ce mot « entraîné », c'est un mot grec qui veut dire « exelkimentos ». Exel, je ne sais pas la prononciation, hein, « kimentos », qui veut dire « et qui dépeint l'image de quelqu'un qui dépeint la capture d'une victime qui a été piégée. Intéressant, hein? Donc, il n'est pas faux de dire, mais chacun est tenté quand il est attiré et capturé, car piégé par son âme. On voit que l'âme est ce qui va nous piéger. Vous savez, il ne nous piégera jamais plus spirituellement. C'est terminé, ça. C'est terminé, c'est terminé. On n'est plus du tout piégeable dans l'esprit. C'est juste impossible. C'est juste au niveau de notre âme. Alors, ma question est, Jésus, dans ce passage, a-t-il été capturé? Pas tous à la fois. Jésus, a-t-il été capturé dans ce passage? Non, on voit que à chaque fois que le diable a jeté un filet, parce qu'il est dit qu'il avait, quand, après qu'il l'ait tenté de toutes ses manières, ça veut dire qu'il a jeté un réseau de mailles. Trois questions, c'était un réseau de mailles. Et on voit que Jésus n'a pas mordu, Jésus ne s'est pas laissé enfermer. Jésus n'a pas été capturé parce qu'il n'a pas été piégé par quoi? Par son âme. Pourquoi n'a-t-il pas été capturé? Pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas fait avoir par le filet? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas laissé son âme le piéger. Il a refusé de laisser entrer son âme dans le combat. Il a refusé de laisser son âme s'en mêler quand le diable lui a dit. Il a refusé de laisser son âme mener le combat devant la question qui était posée. À la place, il a laissé la parole de Dieu. Il a laissé ce qu'il connaissait de la vérité de la parole répondre à la question que le diable avait posée. Et mes amis, c'est là le secret. Là est le secret. Si, vous savez, il y a des endroits où il faut désengager son âme. Il y a des endroits où quand on est trop, quand la pression est trop grande, alors retirez, arrêtez de méditer, arrêtez d'y penser, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez, plus à chaque fois, et on va continuer à chanter, arrêtez ce processus. Quand l'occasion est là, le diable lance un filet. Si on accepte de répondre, d'ouvrir un dialogue dans notre âme avec la question qui blesse, si on accepte de méditer, vous avez remarqué que quand le diable pose une question, si on accepte d'argumenter, si on accepte de nourrir ça dans notre âme, ou si on accepte de céder à la pression, comme je disais tout à l'heure, de mettre le couvert avant que la personne arrive, eh bien, vous savez ce qui se passe? Vous avez oublié les petits plombs dans le filet. Hein, vous les avez oubliés, ces petits plombs. Les petits plombs, ils ont à voir avec quoi? Vous savez, ce n'est pas le fait qu'un filet vienne sur l'eau qui va faire qu'il soit une menace. C'est pas le question. Le problème n'est pas que la question vienne à vous. Vous savez ce qui va faire que votre filet, que son filet va se plomber? C'est parce qu'à chaque fois que vous prenez cette question, que vous prenez cette réflexion, que vous prenez ce qui est devant vos yeux et qui vient de lui, qui n'est pas de Dieu, et à chaque fois que vous en faites quelque chose, en méditant, en répondant, en argumentant, en faisant quoi que ce soit, vous rajoutez un plomb. Chaque pensée rajoute un plomb au filet qui vient de poser. Et au fur et à mesure, à chaque fois que l'on coopère, à chaque fois que l'on on rajoute une pensée, il lance cette pensée et on lui répond, à chaque fois on rajoute un plomb. Et arrivé à un certain stade, eh bien, le filet s'enfonce. Il n'y a rien d'autre à faire. Le filet s'enfonce. À chaque fois que l'on donne le change, et on le sait, si on ne le sait pas de suite, on va le savoir après, à chaque fois que l'on donne le change, le filet de l'offense, le filet de la dépression, le filet de l'avarice, le filet de... Vous ne voulez pas me dire un mot? De? D'infériorité. Le filet de... L'offense. Le filet de... culpabilité. Le filet de... Dites-moi, vous ne voulez pas répondre? De la peur, le filet de l'étroitesse. Vous savez, cet esprit qui essaie de vous cantonner juste dans vos 1 mètre carré, parce que c'est ce que le monde a décidé que vous avez droit. Pas plus d'un mètre carré par personne quand on s'assoit. Cet esprit qui essaie de nous restreindre, de nous mettre raides comme des bâtons, Eh bien, à chaque fois que l'on coopère, à chaque fois on rajoute un filet et son filet descend. Mais je vais vous dire la bonne nouvelle, ce qu'on n'est pas obligé de rester avec les filets. Amen, amen. Est-il pas étonnant de voir, au regard de ce qu'on a appris concernant le nom du diable, c'est que quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit « tu vas être pêcheur d'hommes ». C'est-à-dire qu'on est dans le business de la pêche, nous aussi. Ah ouais, on pêche. Mais je vais vous dire, on va tirer des poissons qui sont pris dans les filets, parce qu'il est impossible, de sortir des filets sans l'aide extérieure. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde pour tirer les gens qui étaient dans les filets. Et quoi que ce soit, quelque filet qui soit, que le diable a essayé de mettre, ou qui a commencé à s'enfoncer, ou qui est même enfoncé, je vais vous dire, personne ne aucune autorité sous la terre ou dans les cieux peut vous l'imposer. Parce que Jésus ne vous l'impose pas. La bonne nouvelle, vous savez, c'est qu'on peut sortir de tous les filets. La Bible nous dit, en 1 Corinthiens 10, 13, avec la tentation... La tentation, ce n'est pas Dieu qui l'amène, c'est le diable. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Psaume 124, 4 nous dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Regardez, on va regarder ensemble une dernière écriture qui est 2 Corinthiens 10, 3. Je vais vous dire, l'évangile est une vraie bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous titille? Qu'est-ce que le diable a essayé de mettre? Et on sait, il y a toujours cette petite pensée qui revient. Il y a toujours cette même, quand on se retrouve dans une certaine situation, toujours les mêmes doutes qui reviennent, toujours cette mauvaise image de soi qui revient, toujours cette insécurité, toujours cette peur, toujours quoi que ce soit que vous nommiez. Et quoi que ce soit qui est, ça n'a pas à rester. 2 Corinthiens 10, 3 nous dit « Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire si nous sommes sur terre, nous ne combattons pas selon la chair. » C'est-à-dire, nous n'allons pas combattre comme on avait l'habitude dans le temps de combattre, tel que le monde nous apprend à combattre, à nous débattre, j'ai envie de dire. Non, à vrai dire, le monde nous apprend à vivre avec, la plupart du temps. Avec le filet que le diable a posé sur notre âme. Et le verset continue, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons, quand il y a la pression, quand le filet a été jeté, ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. » Non, et c'est ce qu'on a vu que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand la pression est venue, il est retourné à la parole. Il a laissé passer la parole au combat. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, non. Avec quoi on combat? Avec la vérité. C'est-à-dire que quand vous savez qu'il y a un mensonge qui vous est dit, mettez devant la vérité. Nous combattons avec la vérité qui est la parole de Dieu. Comment combattons? En se rappelant quoi? En se rappelant la justice de Dieu. Quand vous vous sentez, je ne sais pas moi, pas digne ou pas à la hauteur, rappelez-vous de ce qui vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes la justice. En combattant avec quoi? Avec la paix. Ça, ce sont toutes les souliers de la paix. C'est-à-dire que quand il y a la pression, au lieu de rester dans les chaussures de la pression, décidez, Seigneur, par la foi, je vais revêtir les chaussures de la paix et je vais me tenir à cet endroit. C'est-à-dire que au lieu de rester en face de la question, je vais me mettre dans les chaussures de la paix et je vais y rester. Nous avons la justice, nous avons la parole, nous avons la paix. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons notre foi. Notre foi, comment? C'est-à-dire que quand la question vient, au lieu d'avoir ce dialogue avec, en lui répondant, Jésus n'a pas répondu avec ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers la parole. Quand votre foi est challengée, au lieu de rester vous poser la question, replongez-vous dans votre foi. Changez d'axe, déconnectez-vous de la question et mettez-vous replonger dans votre foi. La Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais, tout le monde dit, mais, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ça veut dire qu'avec les armes, avec la connaissance de la parole de Dieu, avec la connaissance de la justice, avec la connaissance de la paix qui est à notre disposition, avec la connaissance des... On connaît les principes spirituels, comment marche la foi. Avec toute cette connaissance, on peut, la Bible nous dit, éventuellement, ils renverseront les forteresses. Mais on n'est pas sûr. Hein. Ça dépend dans quel sens souffle le vent. Non. Il est dit, vous renverserez des forteresses. Et quand il est dit, renverser des forteresses ici, ce n'est pas juste le château de sable. Non. Le mot forteresse ici veut dire ouroromaton. Ouroromaton. C'est quoi? Ce mot-là définissait une structure extrêmement bien bâtie, extrêmement bien solide. Le style de structure, de bâti qui ressemble à un fort, à un château, où ces mots étaient utilisés pour décrire une prison aussi. Et la Bible nous dit, avec ce que tu as à disposition, avec ce que tu connais de ton Seigneur, avec ce que tu connais de toi, abats cette forteresse. Tu as tout ce qu'il faut pour abattre cette forteresse. Et on va continuer, on va finir. Nous renversons les quoi ? Les raisonnements. On a parlé de quoi tout à l'heure ? Des raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée qui n'est pas de Dieu, je rajoute, captive à l'obéissance de Christ. Et on voit, ça a marché. Vous savez quoi? Le filet ne s'est jamais enfoncé sur Jésus. On voit que, là, visiblement, le diable, je ne sais pas s'il lui a apparu, mais le combat spirituel auquel il faisait face était extrêmement fort. Mais je vais vous dire, malgré la tempête, le filet n'a pas réussi à s'enfoncer. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais mis de plomb. Il n'a pas attaché des plombs au filet qui lui était lancé. Et on voit que le diable s'est retiré. Voilà, je voulais vous encourager parce que les chrétiens ont trop la mentalité de « c'est comme ça ». Trop une mentalité de victime. On n'est pas victime depuis la croix. On n'est plus victime depuis la croix. C'est terminé. Avant, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Mais depuis la croix, à vrai dire depuis la résurrection, rien de ce qu'il peut, veut faire contre vous ne peut vous garder dans un filet. Voilà, c'était ce que j'avais à partager.